Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir pour cette dernière partie de Clap mes collègues critiques pour débattre des films qui sortent sur vos plateformes ou en DVD VOD. Aujourd'hui dans le studio, Caroline Vier de 20 minutes et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Vous faites ça bien. On va parler ensemble du Tigre Blanc qui débarque sur Netflix, de Coco, et oui, qui était sorti il y a 3 ans, le dernier Pixar, enfin, c'était le dernier à l'époque, depuis on a eu deux autres. Et qui arrive enfin sur Disney+, chronologie des médias oblige. On débattra aussi de Paradise Hills sur Prime Video et d'Underwater sur MyCanal avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, notamment complètement emprisonnés sous l'eau. Vous verrez ça. Mais d'abord, donc, disons quelques mots du Tigre Blanc qui arrive sur Netflix.
Moi, Balram Alwai, je conduisais la voiture. J'étais seul dans la voiture. Ils m'ont fait signer leurs aveux.
Vous le traitez de cette façon? Pourquoi vous le maltraitez comme ça?
T'es mon chauffeur, tu travailles pour moi.
Il me fallait devenir la créature qui ne naît qu'une fois par génération.
Le Tigre Blanc.
C'est donc adapté du best-seller de Aravind Adiga, j'espère que je le prononce bien, et c'est l'histoire de Balram.
Non, vous le prononcez pas bien.
Comment on dit?
Je ne sais pas, mais vous le prononcez
merci,
pas bien.
Ça commence.
D'office.
Un jeune garçon qui grandit donc dans un village très pauvre de l'Inde, sans eau ni électricité. Pour s'en sortir, il se fait embaucher comme chauffeur dans une famille riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Le voilà donc au service de Ashok. Vous imaginez, fils à papa, sa femme qui s'appelle Pinky. Il rentre tout juste des États-Unis. Un jour après le drame, dont il n'est pas responsable d'ailleurs, je ne vous en dis pas beaucoup plus, et Balram décide qu'il n'a plus sa place comme domestique. Grâce à son ingéniosité, il va peu à peu s'affranchir de ses maîtres et devenir un brillant entrepreneur surnommé le Tigre Blanc. Bon, on est entre satire, thriller politique, Fabrice me regarde du coin de l'œil, je vais d'abord donner la parole à Caroline Vier.
Quelle bonne surprise que ce Tigre Blanc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je trouvais ça très drôle. Extrêmement méchant, très sombre. Donc ça se passe en Inde dans les années 2010, à une époque où l'Inde était en train de se réinventer. J'ai trouvé ce personnage très attachant, ce qui est d'autant plus étonnant que c'est un véritable salopard qui est absolument dépourvu de toute forme de scrupules. Donc je me suis identifiée, voilà, on ne va pas dire le contraire, et je me suis beaucoup amusée. Je recommande ça à 300%.
Pour toute la famille, le soir, dans le canapé?
Alors, pas tout à fait, pas tout à fait pour les petits-enfants, on ne va pas dire ça comme ça, mais en revanche, c'est féroce, ça fait du bien. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec Bollywood, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est plus proche du cinéma indépendant indien. C'est vraiment une grande, grande réussite par le réalisateur de 99 Homes, qu'on avait déjà beaucoup apprécié, qui avait fait aussi une belle adaptation de Fahrenheit 451.
Mon cher Fabrice, Tigre Blanc.
Alors surtout, il ne faut vraiment pas s'attendre à voir Slumdog Millionnaire, parce qu'on n'est du tout dans cette optique-là, même si le film est un peu vendu comme ça. Je suis assez d'accord avec Caroline, mais que le film est sombre. Oula, oui, c'est féroce, oui, c'est méchant, mais c'est surtout extrêmement sombre. Ça montre l'Inde telle qu'on l'a rarement vue, une Inde moderne, moitié totalement misérable et moitié totalement Los Angeles et clinquante. Vraiment, c'est un film très étonnant, très, très, très touffu. Non, j'ai beaucoup aimé, on se laisse emporter.
Mais c'est marrant parce
qu'il y a une scène épatante où le gars se brosse les dents pour la première fois, donc c'est un adulte, on ne parle pas d'un gamin, et il découvre le plaisir de se brosser les dents. C'est une scène que j'ai trouvée merveilleuse, qui est dans le bouquin aussi, et totalement bouleversante.
Mais c'est étonnant parce que ce n'est pas forcément le film, c'est vrai, le soir quand on se pose dans son canapé et qu'on allume Netflix.
C'est pour ça que je voulais rebondir, parce que ce n'est pas un film pour toute la famille, c'est quand même assez violent, assez sombre, et ça raconte l'Inde contemporaine d'une manière assez violente.
Il y a beaucoup d'ironie aussi dans la façon, la voix off du personnage, c'est surtout très méchant, quoi. C'est vraiment un film méchant.
Et puis il y a Priyanka Chopra qu'on avait découvert dans Quantico et que moi j'aime beaucoup, je vous le dis.
Aussi.
Que dire de plus? Allez découvrir le Tigre Blanc qui débarque donc sur Netflix. Je voulais aussi, les amis, qu'on parle, parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque, de Coco. Coco, c'était un Pixar sorti il y a 3 ans. Et chronologie des médias oblige, il arrive enfin sur Disney+.
Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang.
Moi, je serai musicien.
Les musiciens sont égoïstes et irresponsables.
On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille.
Pas de musique.
Pas de musique.
Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait.
On ne peut pas renier sa véritable destinée.
Coco, c'est l'histoire de Miguel, notre jeune héros, il a 12 ans, nous sommes dans un petit village mexicain en pleine fête des morts, Dia de los Muertes, une tradition au Mexique. Et Miguel, figurez-vous, rêve de devenir musicien comme son idole qui s'appelle Ernesto de la Cruz, sauf que dans la famille de Miguel, la musique est bannie. Il faut dire que l'arrière-grand-père qui était musicien était parti avec sa guitare sous le bras, abandonnant femme et enfant. Et donc un jour, il y a un concours de chant qui est organisé sur la place du village. Miguel veut y participer, vole la guitare d'Ernesto de la Cruz qui est dans son caveau, ce qui déclenche une malédiction et il se retrouve dans le royaume des morts. Alors il va vivre toute une aventure, notamment avec Hector, ça c'est un gentil squelette, découvrir aussi son histoire familiale. Il faut rappeler que ce jour au Mexique, c'est un jour où on honore les morts et on estime que si on ne les célèbre pas à ce moment-là, il meurt une deuxième fois.
Voilà, c'est un jour très joyeux finalement.
Très joyeux, on fait la fête, c'est très coloré.
Oui, c'est dans les cimetières, on fait des pique-niques et tout ça pour que les morts participent pendant une journée à la vie des vivants.
On se grime en squelette.
Coco, les amis, Caroline.
Ah bah c'est épatant. J'ai pleuré comme une grosse vache, hein, on va pas se mentir.
Comme une Madeleine normalement.
Comme une Madeleine.
Je suis désolée,
vous
c'est pas la.
Vous ressemblez plus à une Madeleine qu'à une grosse vache en plus.
Fabrice, je vous aime. Je vous épouserai à la fin de l'émission, mais en attendant, oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est magnifique, parce que ça reprend évidemment toute l'imagerie de la fête des morts, avec ses squelettes très colorés, ses maquillages formidables.
C'est pas triste, faut le dire.
C'est pas triste du tout, c'est une belle histoire d'amour familial, très émouvante, vraiment. L'un des réalisateurs est mexicain et raconte la vie de sa famille. J'ai été emballée par ce film, c'est un des plus beaux Pixar, dans les Pixar récents, à mon sens.
Fabrice ?
Moi, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois qu'un Pixar sort, de dire la même chose, et je vais redire la même chose, je suis fasciné par la propension qu'a le studio dirigé par Disney d'aller chercher des sujets totalement fous. C'est un film sur la mort. Moi, c'est un film où j'ai beaucoup plus pleuré que ri, et je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que les enfants vont pouvoir trouver là-dedans ? Et oui, ils ont toujours ce génie de pouvoir raconter une histoire triste, une histoire forte, on parle de famille, de mort, on parle de cette célébration de la mort aussi qu'on ne connaît pas du tout nous dans notre, dans notre culture, dans notre civilisation. Et puis voilà, et puis ça passe comme une lettre à la poste, c'est brillamment fait, la musique est extraordinaire, les couleurs, les décors, le dessin, tout, voilà. Bon.
C'est galvanisant comme film, c'est un film à voir en famille, tous les âges, là pour le coup, les enfants sont emballés, ils sont émus. Mais pour autant, pas traumatisé, c'est splendide.
Vous dites un Pixar comme si c'était gage de qualité. Je vous rappelle qu'entre celui-là et Soul, il y a quand même eu un Pixar qui était très très moyen. En avant, non, ça s'appelait
dans
mon souvenir.
C'est pas si mal quand même en avant.
Il y a des Pixar qui sont très en dessous, mais on regarde quand même toute la production de Pixar, de Wall-E à Toy Story, en allant jusqu'à Ratatouille. Coco et Soul ces derniers mois.
Il peut y en avoir d'un peu plus faible, mais enfin quand même, c'est jamais nul. Hein,
bon,
Pixar.
On ne peut pas dire de mal de Pixar dans cette émission.
Ah bah non.
Voilà donc pour Coco sur Disney+, on a aussi parlé du Tigre Blanc sur Netflix.
Clap.
On en vient les amis, Paradise Hills, c'est sur Prime Video.
Le petit déjeuner? Mais je suis où, là?
Tu es au paradis, bien sûr.
Des nouvelles?
Écoute, j'ai besoin d'aide, ok? Ils me poursuivent et j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Je sais même pas comment je suis arrivée là.
Viens avec moi.
C'est quoi cet endroit?
Vous avez perdu quelque chose?
Non.
Alors Uma, notre personnage, se réveille sur un matelas isolé dans une chambre joliment décorée. Où est-elle? Que fait-elle ici? Tout est très beau, tout est très fleuri. Les filles portent de jolies robes, comme dans Alice au Pays des Merveilles. On se croirait un peu dans un conte. Mais rapidement, Uma va déchanter et comprendre qu'il s'agit en fait d'un centre de redressement pour jeunes filles à marier. La terrible directrice qui est interprétée par Mila Jovovich veut écraser leur personnalité pour les formater en jeunes filles parfaites, bonnes à marier, je le disais. Et notre héroïne va donc tout faire pour s'échapper. On est dans le conte, évidemment, très contemporain. Fabrice ?
On est dans le film d'anticipation, parce que la femme a perdu toute velléité à être femme et à revendiquer son statut de femme et sa liberté d'être femme. Alors, c'est un film plastiquement absolument superbe. Je crois que je n'ai pas vu des décors comme ça, une photo comme ça, une lumière comme ça depuis des lustres. C'est un film absolument étonnant. Il faut savoir que c'est un film espagnol qui est réalisé par une jeune réalisatrice espagnole, d'ailleurs, qui a un nom anglais, mais elle est espagnole. Et puis voilà quoi, malheureusement, après les beaux décors, on comprend vite le twist qui va arriver et le deuxième qui va arriver, parce qu'elles ne savent pas vraiment où elles sont, on est dans la science-fiction matinée de... Vous voyez, c'est un peu comme si Stalker était, avait été tourné par David Hamilton, vous voyez, si je résume. Le problème, c'est qu'il n'y a, pas d'histoire, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la longueur. Et ça reste un objet, voilà.
C'est un peu bébête, non ? Enfin, c'est le côté David Hamilton. c'est ça, c'est, enfin, c'est...
J'en déduis que vous n'avez pas aimé.
J'ai pas été emballée du tout, et on peut dire ça comme ça. C'est joli, oui, voilà. C'est beau, les images sont belles. Ce qui est
déjà pas mal. C'est pas toujours le cas.
Il y a des fois où, en plus, les images ne sont pas belles. C'est un peu ennuyeux aussi.
Oui.
On va pas, voilà.
Mais toute la réflexion sur la servitude des jeunes femmes.
Mais on l'attend. On l'aimerait peut-être dans le numéro 2.
Alors certainement, oui, c'est bien de dire que les femmes ne doivent pas être asservies. Ça, je pense que c'est bien, mais oui. Si, je vous assure, Fabrice, on en reparlera après l'émission. C'est tout à fait bien. Mais il y a rien de tout ça dans ce film.
Oui, d'accord. Là, on est d'accord. Il y a rien de tout ça dans ce film.
On pourra en parler après si vous le souhaitez. Enfin, on comprend pas bien. On comprend pas bien l'intérêt de ce film, en fait.
Bon, on va passer vite alors.
Absolument.
Allez, Paradise Hills, c'est sur Prime Video. Dernier film dont on débat aujourd'hui. On part sous l'eau, les amis, avec Underwater qui débarque sur My Canal.
Écoutez attentivement. Vous vous trouvez maintenant à 8000 km de la côte et vous descendrez sur l'océan jusqu'à 11 km de profondeur. On se revoit dans un mois.
Voilà, on y est.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est grave ?
10 !
Alors Underwater, on est dans le survival movie, vous savez, c'est des films qui n'ont aucun autre intérêt que de savoir si les protagonistes de l'histoire vont s'en sortir ou non. On sait toujours qu'il y en a quelques-uns qui vont mourir, quelques-uns qui vont s'en sortir. Et bon, on attend de savoir lesquels. Alors en l'occurrence, on retrouve nos héros qui vivent à plusieurs centaines de milliers de mètres sous l'eau dans une sorte de station scientifique qui un jour, vous me voyez venir, se retrouve très secouée, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce un tremblement de terre ? Est-ce un monstre sous-marin ? Vous le découvrirez. En tout cas, c'est parti pour 1h35 sous l'eau. Il faut essayer de rejoindre les plateformes, mettre les combinaisons pour s'en sortir. On est véritablement avec eux. On étouffe sous l'eau. Moi, je garde un souvenir de ce film. C'est celui-là, celui d'étouffer avec eux sous l'eau. J'en garde un souvenir pas désagréable. Caroline.
Je dois avouer que je l'avais un petit peu oublié.
Oui, quand je vous ai dit Underwater, vous m'avez dit je ne l'ai pas vu.
Si, je l'ai vu. Et en fait, j'ai honte.
C'est l'âge.
J'ai honte. Oui, c'est le grand âge. Vous savez ce que c'est, hein, Fabrice. Vous êtes bien placé pour le savoir. J'avais bien aimé, en fait. C'est une petite série B d'horreur des plus sympathiques qui ne se prend pas trop au sérieux. Alors, ça se passe sous l'eau. Ils n'ont jamais vu une goutte d'eau. Hein. Enfin, tout a été fait en post-production. Il y a des petits monstres, un petit peu cthouliesques, enfin, un petit peu Lovecraft, qui sont mignons comme tout. Christian Stewart est très bien. Vincent Cassel est très bien aussi. C'est vraiment une chouette série B. Voilà, on sait ce qu'on va voir. Si on a envie de voir une série B d'horreur, ça remplit, ça coche toutes les cases de façon très professionnelle. C'est ni plus ni moins.
Et pourquoi pas aller revoir ou Abyss ou Alien qui sont totalement photocopiés dans le film ?
Parce qu'on l'a déjà vu 15 fois et qu'on peut avoir envie de voir autre chose. Oui. Voilà, c'est une bonne...
Je m'excuse, mais Kristen Stewart et Vincent Cassel, c'est quand même un peu un mariage contre nature entre Steven Seagal et Isabelle Huppert, non ? Non, moi je trouve que ce film ne raconte rien, que c'est ultra balisé, qu'on sait qui va se passer... Il y a le mec qui vient faire 2-3 blagues toutes les 2 scènes et demie.
J'ai trouvé qu'il y avait une
un film sous l'eau, c'est un film qui, comme le dit Mathieu, doit donner de la difficulté à respirer.
J'ai trouvé qu'il y avait une gentille petite difficulté à respirer. Puis les petits monstres sont très bien. Et à point de vue production design, comme on dit en français, franchement, c'est extrêmement bien fichu.
C'est quand même 20 000 lieues sous la mer. Hein.
Oh, c'est petit ça. Écoutez, ça dépend ce qu'on veut dans la vie.
Oula,
si on veut du grand cinéma, c'est clair qu'Underwater, c'est pas ce qu'on va chercher. Si on a envie de passer une bonne soirée un peu frissonnante...
Excusez-moi, quand il y a un film avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, on se dit quand même qu'on n'est pas dans du blockbuster hollywoodien à la petite semaine.
Mais c'est parce que vous faites des illusions.
Mais non, que ces deux acteurs-là ne vont pas sur des films si plan-plan, si 10 fois vus, si photocopiés de tout ce qui a été fait avant 10 fois mieux. Franchement, non.
Bah, comment c'est dans Twilight, Kristen Stewart, on ne peut pas dire qu'elle a fait...
Non, mais c'est pas un grand film.
Alors, j'aime bien être au milieu de Caroline.
C'est même pas un petit film,
c'est une série B sympa.
Ce n'est pas un grand film, mais quand on rentre chez soi le soir Encore une fois, on branche My Canal, on regarde Underwater, on passe pas un mauvais
mais
moment.
Il y a plein de choses à la télé, il y a plein de séries, il y a plein de fiction, il y a plein de films à voir. Non.
Et dont Underwater, qui est sympathique si on a envie de voir une bonne petite série B d'horreur.
Underwater, c'est sur My Canal. Vous aimez rien aujourd'hui. Paradise Hills, faut bien qu'il s'occupe
de
nos auditeurs.
Le tigre blanc qui est formidable.
Voilà, le tigre blanc, Paradise Hills sur Prime Video. Le tigre blanc, c'est Netflix. Coco, c'est sur Disney+. Merci beaucoup les amis. Caroline Vier, 20 minutes. Fabrice Leclerc, Paris Match. Je voulais aussi dire un mot très très rapide du festival Premier Plan d'Angers qui va commencer lundi. C'est un festival qui met en avant deux jeunes réalisateurs. Malheureusement, évidemment, vous me voyez venir, ça n'a pas lieu dans les salles cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vivre le festival un peu partout en France puisqu'il y a une édition numérique, donc vous aurez quelques projections numériques. Donc voilà, allez voir sur le site, tout vous est expliqué.
Il y a le festival de Gérard May, le festival du film fantastique, qui sera aussi lui aussi
dans une semaine, c'est
dans
ça
une semaine. Voilà.
Donc, absolument, là on peut s'inscrire et voir.
C'est la tristesse, c'est à la fois la tristesse de ne pas découvrir tous ces films en salle et en même temps, du coup, il n'y a plus besoin de se déplacer.
Et tout le monde peut y avoir accès.
Exactement.
Et cette semaine, on devait tous être à l'Alpe d'Huez pour le festival de la comédie, du film de comédie qui est pour l'instant repoussé à fin mars.
On va faire la comédie tout seul après l'émission.
Voilà.
On va se raconter des blagues.
Les amis, merci Jérémy Hébert qui réalise cette émission. Marjorie Adelson qui la prépare. Clap que vous retrouvez évidemment en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne, 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.